Pour donner une idée, je crois, déjà très pertinente de notre propos, je voudrais citer un texte, Noblesse oblige, de Gershom Scholem. C'est un texte qui se situe au début de son article, intitulé en français, selon la traduction qui en a été faite par très récemment par Cyril Aslanoff, et publié dans le livre intitulé « Aux origines religieuses du judaïsme laïque, de la mystique aux lumières », qui est paru chez Kalman Levy dans la collection Essai judaïsme, dirigée par Maurice Kriegel. Donc cet article, qui avait déjà paru, bien entendu, antérieurement, dans sa langue originale, qui était l'hébreu, aux éditions Sifriyat à Shaot, en 1944, fait le point des recherches de Gershom Scholem à l'époque, c'est-à-dire avant l'année 44, constitue une sorte de concentré, de résumé de son ouvrage « Les grands courants de la mystique juive » et nous donne une idée, je crois, très précise de la façon de faire l'histoire. Je vais d'abord lire ce texte, ou une petite partie de ce texte, et je le commenterai. Je m'arrêterai pour le commenter ligne phrase par phrase. Les termes de mystique hébraïque ou de kabbale, au sens large, désignent l'ensemble des courants religieux du judaïsme qui aspirent à une connaissance suprarationnelle. Alors déjà, vous voyez, immédiatement, mystique hébraïque et kabbale, au sens large, précise Scholem, sont des termes considérés comme étant synonymes. Alors, il emploie l'expression de mystique hébraïque. Cela pourrait nous surprendre. Pourquoi ce choix plutôt que mystique juive? En quoi la mystique hébraïque est-elle identique, ou plutôt en quoi diffère-t-elle, de quelque façon, de la mystique juive? C'est ce que Scholem ne dit pas. Bien entendu, il a adressé son article à un public israélien. C'est en fonction de ce public, sans doute, qu'il a choisi le terme de mystique hébraïque. Peut-être aussi pour dire que la Kabbale a été rédigée en hébreu. Enfin, les ouvrages de la littérature kabbalistique sont en hébreu. Bien entendu, on peut remarquer que ce n'est pas le cas, puisque parmi les ouvrages de la Kabbale, le plus grand d'entre eux, peut-être le plus connu, qui est le Zohar, a été rédigé essentiellement en araméen. Mais enfin, le terme hébraïque, visiblement là, a un usage qui dépasse l'usage de désignant linguistique. Et il qualifie déjà, de façon quasiment inaperçue, anodine, mais pourtant déjà sensible, ce que Scholem appelle le mythe national, c'est-à-dire la résurrection d'une nation juive sur sa terre, et qui parle l'hébreu, considéré comme étant la langue nationale, et plus seulement la langue sainte, la langue de la religion. Et il ajoute que ce terme-là, de Kabbale, désigne l'ensemble des courants religieux du judaïsme qui aspirent à une connaissance suprarationnelle. Alors déjà, d'emblée, il nous dit que ce que les kabbalistes recherchent, c'est une connaissance suprarationnelle. Suprarationnelle signifiant au-delà de la raison. Gershom Scholem n'emploie pas le terme d'irrationnel. Mais pourtant, c'est ce que l'expression de suprarationnel pourrait désigner, par opposition à la rationalité, par opposition au mode de pensée philosophique. La connaissance suprarationnelle, c'est finalement une connaissance qui n'est pas quelque chose, plutôt qu'une connaissance qui est désignée positivement comme étant de telle ou telle nature. Après tout, qu'est-ce qu'une connaissance suprarationnelle? En quoi s'agit-il encore d'une connaissance? Et que veut dire ce terme? Scholem, bien entendu, ne le précise pas. C'est un concept flou, très utile, en l'occurrence, pour donner au lecteur l'intuition de ce qu'il appelle aussi, Scholem, la mystique. Et il ajoute: ce mode de connaissance, on y parvient grâce à un travail de concentration sur soi, moyennant la contemplation et aussi bien l'illumination intérieure qui résulte de celle-ci. Curieusement, il définit la connaissance auquel les kabbalistes veulent parvenir, la connaissance dite suprarationnelle, comme le résultat d'un travail de concentration sur soi, et non pas comme un travail d'étude, comme un travail d'acquisition d'un savoir, une connaissance ésotérique, par exemple, transmise de maître à disciple, mais comme un travail personnel qui suppose contemplation et illumination intérieure. Autrement dit, c'est vraiment une description très psychologisante de l'acte d'acquisition de la connaissance de la Kabbale, du savoir que propose la Kabbale, et qui s'oppose à la connaissance philosophique ou la connaissance non suprarationnelle ou rationnelle, en ce que c'est à l'intérieur de soi, dit Scholem, que l'on va la trouver, cette connaissance. Or, il est très rare que les kabbalistes ont dit les choses de cette façon. Dans la plupart des textes de la Kabbale, il est vrai, ce n'est pas le cas chez certains d'entre eux, comme dans les écrits d'Abraham Aboulafia par exemple, et encore, il y a bien entendu chez Abraham Aboulafia l'apologie de la connaissance philosophique, hein, puisque Abraham Aboulafia connaissait parfaitement Maïmonide et était lui-même un interprète de la philosophie aristotélicienne, mais chez lui, c'est l'illumination, l'accession à l'unité ou à l'union avec Dieu par un acte d'extase qui suppose une sorte d'illumination, de contemplation intérieure, à travers différentes techniques, qui était le but ou le modus operandi de sa forme de Kabbale. Mais à part l'école d'Aboulafia, la plupart des autres kabbalistes n'ont pas placé la concentration sur soi comme étant le mode d'acquisition de la connaissance, mais au contraire, l'étude et d'abord, bien sûr, la réception des secrets de la Torah. Autrement dit, un travail de transmission qui suppose non pas une illumination, mais un raisonnement, une réflexion, un approfondissement réfléchi et réflexif. Mais déjà, Scholem, par le choix qu'il a fait de la présentation de la Kabbale, il la situe comme étant finalement, en tout cas la Kabbale authentique, celle qu'il désigne ici, de façon indirecte, comme étant la Kabbale d'Abraham Aboulafia et de son école, et non pas la Kabbale du Zohar, alors que Scholem a beaucoup travaillé, a œuvré de façon très considérable à la connaissance de la Kabbale dite théosophique, de l'école du Zohar. Mais ce n'est pas celle-là qu'il considère comme la plus exemplaire, finalement, puisqu'il met l'accent d'emblée, comme définition, comme caractérisation essentielle de la Kabbale, de faire le point, de marquer son insistance sur la Kabbale d'Aboulafia et le mode de connaissance suprarationnel. Et il ajoute encore. Ces courants s'efforcent néanmoins de préserver leur statut au sein du judaïsme historique de leur temps, évitant même, autant que possible, d'engager la controverse avec lui. Alors, ces courants qui apparaissent comme étant des courants de type mystique, appelant la concentration sur soi, la contemplation intérieure, l'illumination, et donc absolument pas un mode de rapport à la religion qui est médiatisé par les formes classiques du rapport à une institution religieuse ou à un enseignement religieux, les situant de cette façon, la situant d'emblée la Kabbale et ses courants religieux, les courants mystiques de cette manière, il ajoute immédiatement, mais qu'ils s'efforcent de préserver le statut, n'est-ce pas ? Comme s'ils avaient un effort à faire, les kabbalistes. C'est ce que Scholem suggère, même s'il ne le dit pas, il le suggère quand même de façon assez claire, ces courants s'efforcent néanmoins de préserver leur statut qui semble être mis en péril par leur propre façon de chercher la connaissance par illumination, de préserver ce statut au sein du judaïsme historique de leur temps. Ah tiens, pourquoi ajouter du judaïsme historique de leur temps? Est-ce qu'il pouvait exister en leur temps un judaïsme qui n'était pas historique? Qu'est-ce que Scholem ajoute par ce biais du mot historique? Eh bien, tout simplement, il nous révèle quelque chose. Mine de rien, il nous dit que le judaïsme institutionnel, le judaïsme de la religion commune, exotérique, non mystique, c'est ça le judaïsme historique. Tandis que le judaïsme, ou la forme de connaissance des courants religieux, ou promus par les courants religieux du judaïsme, c'est-à-dire les courants mystiques dont il vient de parler, ne sont pas des éléments de ce judaïsme historique, sont en quelque sorte extérieurs à l'histoire de leur temps, sont aux marges, se situent aux marges de l'histoire du judaïsme, et sont des courants que l'on pourrait appeler para-historiques ou méta-historiques. En tout cas, c'est ce que le texte de Scholem invite à penser, si on le lit attentivement. Il termine sa phrase, évitant même autant que possible d'engager la controverse avec lui. Alors les kabbalistes, tout en étant extérieurs au judaïsme historique de leur temps, en développant une forme de judaïsme indépendant, ils ont quand même essayé, en faisant des efforts, de se maintenir, de maintenir leur statut. Leur statut, ça veut dire quoi? On aimerait bien le savoir, mais il ne le dit pas. De maintenir leur statut. Je mets ce mot entre guillemets, et je le souligne, car quel était leur statut? Visiblement, ces courants mystiques n'avaient pas de statut particulier, puisqu'ils étaient en dehors de ce judaïsme historique, dans lequel néanmoins ils s'efforçaient de se maintenir. Et ils évitent de polémiquer, ils évitent la dispute, ils évitent de contredire ce judaïsme institutionnel, ce judaïsme classique, commun. Pourquoi ? Scholem ne cherche pas à le savoir, en tout cas, ce n'est pas sa préoccupation. Il constate simplement que la Kabbale ne s'est pas développée comme mode d'opposition systématique, comme alternative oppositionnelle au judaïsme historique, mais dans les marges du judaïsme historique, comme une autre façon de chercher la vérité, la connaissance suprarationnelle, recherche de la connaissance, c'est-à-dire finalement de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la religion proprement dit. Scholem nous dit tout ça dans ces quelques phrases. Hein. Il nous dit que la Kabbale n'est pas finalement la recherche ou une transmission d'un certain type de religiosité, mais d'une connaissance qui se situe quelque part ailleurs, dans l'ailleurs de la religion institutionnelle. Il ajoute, la mystique juive fait apparaître nettement une évolution organique dans laquelle se dessinent les traits saillants de l'histoire du judaïsme, notamment sous sa forme populaire. Alors, si l'on a bien compris cette phrase, qui n'est pas d'une clarté extrême, Scholem semble dire que la forme populaire de l'histoire du judaïsme, en fait, est mise en évidence et protégée, conservée, développée à l'intérieur de la mystique juive. Autrement dit, la mystique juive serait la gardienne de la forme populaire de l'histoire du judaïsme, d'un judaïsme populaire, non pas du judaïsme des élites, des penseurs, des philosophes, des maîtres de la synagogue, mais du judaïsme pratiqué dans les maisons, dans les foyers, chez les petites gens, le judaïsme des légendes, le judaïsme des croyances, le judaïsme des aspirations messianiques, le judaïsme de la foi qui renverse les montagnes. C'est ce judaïsme-là, cette forme de religiosité-là, qui est maintenue, dont les traits saillants sont mis en réserve et développés par la mystique juive. Il continue en disant, au total, l'histoire de la mystique juive s'étend sur une période qui embrasse les deux derniers millénaires, pour peu qu'on dépasse l'acception restreinte du terme kabbale. Donc moyennant une définition de la kabbale plus large, qui englobe l'ensemble, disons, de ce que Scholem appelle la mystique juive, c'est-à-dire cette forme de recherche d'aspiration à une connaissance suprarationnelle, eh bien ça couvre les deux derniers millénaires, autrement dit tout l'ensemble de l'histoire juive d'après la destruction du deuxième temple, l'histoire de la galoute, du judaïsme diasporique. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il passe immédiatement, après cette présentation sommaire de la Kabbale, déjà si riche d'allusions, si suggestives, il passe à l'évocation de l'histoire de la mystique juive. Parce que bien que cette mystique juive se situe quelque part hors de l'histoire du judaïsme historique, elle a quand même une histoire, cette mystique juive, et une histoire longue, puisqu'elle se déploie sur deux millénaires. Et voici comment Scholem retrace, comme il le dit, le développement de cette histoire en distinguant six périodes. La phrase, on peut en retracer le développement en distinguant six périodes. C'est toujours la première page de son article, La mystique juive et la Kabbale, qui est la page 21 de sa traduction française. D'abord, je crois qu'il est permis de noter, sans vouloir faire de la divination, que le choix par Scholem d'une périodisation en six sections n'est pas du tout anodin, puisque cela rappelle évidemment la structure de la semaine ouvrée, de la semaine juive, biblique même, où six jours sont les jours du travail et le septième jour, c'est le jour du repos. Les six jours, ce sont aussi les six jours qui correspondent, selon un midrash bien célèbre, aux six millénaires de l'époque, disons, des temps pré-messianiques, et le septième millénaire, c'est le temps messianique. Donc, Scholem a décidé, pour une raison qui n'est, je crois, pas seulement due au décompte tout mécanique, au calcul et à l'addition des périodes qu'il a distinguées, il a décidé qu'il y a six périodes dans cette histoire de la Kabbale. Je crois que le caractère symbolique du chiffre 6 est tout à fait présent, bien que mis à l'arrière-plan. Scholem sans doute se serait récrié si on lui avait fait cette interprétation, et tout à fait à l'arrière-plan, bien réellement à l'arrière-plan dans ce texte. Alors voici les six périodes dont parle Scholem. Première période, la mystique des maîtres du char divin, dont le centre est l'Orient, premier millénaire de l'ère chrétienne. Alors, sur les 2000 ans d'histoire de cette Kabbale au sens large, une bonne moitié, un millier d'années, concerne ce qu'il appelle la première période, qui est celle de la mystique des maîtres du char divin, dont le centre est l'Orient. Alors, l'origine, c'est l'Orient. Là, il n'y a rien de très original. L'Orient, n'est-ce pas, c'est dans la vision à la fois romantique et savante du judaïsme et, en général, des historiens des religions du 19e et 20e siècle, l'Orient est la clé, la source du religieux, de la croyance et surtout du mysticisme, avec cette distinction qui remonte déjà à Renan, mais qui est peut-être déjà antérieure à lui aussi, entre le sémite, l'oriental, qui est prompt au rêve, qui aime le récit, et qui n'est pas, contrairement à l'homme d'Occident, apte au raisonnement rationnel, à l'argumentation savante. Bien entendu, la mystique des maîtres du char, mis un millier d'années, n'est-ce pas, ça a l'air tout à fait énorme. On aurait pu s'attendre à ce que ce millénaire soit absolument saturé d'écrits de toutes sortes. Or, sur ce millier d'années, quand on regarde les documents, il nous reste finalement assez peu de choses. Bien entendu, des textes qui ne sont pas négligeables, qui sont relativement importants, mais qui sont bien loin de donner le sentiment de courir sur un millier d'années. Autrement dit, de la destruction du deuxième temple au XIe siècle environ. Cette période paraît absolument énorme, immense, presque démesurée par rapport aux cinq autres périodes restantes. Deuxième période, chassidisme ashkénaze, dont le centre est l'Allemagne. Alors on passe, évidemment, de l'Orient à l'Allemagne, de la patrie du sémite rêveur et mystique à l'Allemagne à la fois rationnelle et romantique. Il est bien évidemment parfaitement loisible de se demander pourquoi Gershom Scholem a découpé cette période en une période qui va de 1150 à 1300, alors qu'en fait il nous dit à la ligne suivante qu'elle s'étend jusqu'au XVe siècle. Pourquoi l'arrêter curieusement à 1300? C'est une période élastique, qui soudain s'arrête en 1300, et puis qui néanmoins continue jusque deux siècles après. On ne comprend plus très bien. En fait, la raison de cette curieuse périodisation, de cette période du chassidisme ashkénaze, qui va à la fois à l'année 1300 et au XVe siècle, la raison, c'est que la Kabbale espagnole, celle de la troisième période dont il va parler bientôt, commence en 1300. En fait, vers 1200, comme il le dit, mais elle connaît son point culminant vers 1300. Donc il y a une espèce de chevauchement des périodes. Scholem ne pouvait pas dire que la période du chassidisme ashkénaze s'étendait jusqu'au XVe siècle, alors qu'il dit une ligne plus bas que la période de la Kabbale commence en 1200 et se prolonge jusqu'à l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est-à-dire 1492. Pour les besoins de sa périodisation, autrement dit pour un besoin qui est strictement théorique, peut-on dire, eh bien il crée une période qui chevauche une autre période, mais qui en même temps s'arrête avant qu'elle ne s'arrête. Autrement dit, Scholem voit l'histoire de la façon suivante, et cette petite remarque est importante. Il la voit comme un chevauchement de périodes qui se succèdent les unes aux autres, entre lesquelles il n'y a pas de véritable rupture, mais qui ne se recouvre pas, ne se recoupe pas. Que se passe-t-il de 1300 au XVe siècle pour les chassidim ashkénazes? Eh bien, cela n'intéresse pas Scholem, cela ne constitue pas une période. Cela constitue une espèce de prolongement d'une période qui peu à peu cesse d'exister, et qui cesse d'exister déjà en 1300, quand la période suivante, quand ce qu'il appelle la période suivante recommence. Nous voyons que cette périodisation déjà est arbitraire, totalement arbitraire. Elle n'obéit qu'à des principes de régulation extérieurs à l'histoire elle-même, extérieurs au découpage temporel et géographique. Elle permet à Scholem d'asseoir son système de présentation sur une cartographie simple, logique, de sa représentation de l'histoire de la Kabbale, bien qu'elle soit pleine de contradictions.